Le Centre d'analyse psycho-organique de Paris vous propose une conférence de Yann Desbrosses, La nature comme médiation thérapeutique, quand la psychothérapie s'ouvre à l'environnement.
C'est émouvant pour moi d'être là à vous présenter. Bonsoir Christine. Le travail de la nature comme médiation thérapeutique. C'est émouvant parce que j'ai travaillé 10 ans ici au CAPOP, c'est là que j'ai démarré. Et je retrouve donc des collègues que je connais, que j'apprécie. Et puis, je pense que le CAPOP, en effet, c'est un lieu où les thérapeutes qui ont envie de partager une façon particulière de travailler peuvent venir pour s'exprimer. Donc, voilà. Je me suis questionné, est-ce que j'allais préparer un vidéoprojecteur avec des slides pour mieux vous captiver? Et puis, je me suis dit, finalement, le mieux, ce serait de réussir à vous parler en connexion avec mes émotions, en connexion organique, comme on dit en APO, tout simplement, sans trop de technique. Et donc, je vais essayer de partager avec vous ce sujet qui me tient à cœur en restant en lien avec ce que ça me fait sentir. Justement, c'est à partir d'un ressenti en fait que cette aventure a commencé il y a 2 ans. J'étais à vélo, en chemin, vers mon cabinet de psychothérapie de Champs-sur-Marne. Je travaille à Champs-sur-Marne et aussi à Paris 12e maintenant, avec des adultes, des ados, des enfants, APO, EMDR, supervision. Et là, je vais à Champs. J'essaie d'aller en vélo au maximum. Je traverse le parc et je vois, comme d'habitude en fait, cette grande prairie qui descend jusqu'à la Marne avec les arbres qui ondulent au bord, ces courbes douces. Je rentre dans le bois, là, plus sombre, une autre ambiance, plus humide. Il y a des grands arbres, il y a un grand platane là, au tronc torsadé, qui s'élève vers le ciel et puis mon regard le suit, je vois même pas les frondaisons là-haut qui prennent le soleil, mais je me rends compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça s'est ouvert. Je perçois que c'est plus dilaté, c'est plus chaud, et je prends conscience en fait de ce que je vis à chaque fois que je traverse ce parc. C'est que ce lieu me fait quelque chose, ce lieu me touche. Et quand j'arrive à mon cabinet de psychothérapie, je me dis... Ah voilà, ça y est, l'émotion est là, super, ça marche, je suis connecté. Je me dis, mais moi qui viens pour aider les autres à se ressourcer, comment ça se fait finalement que je les reçoive exclusivement dans une boîte? Puisque, comme ici, je vois 4 murs autour de moi, un au-dessus, un en dessous. Oui, je travaille dans une boîte. J'ai fait mes formations à la psychothérapie dans des boîtes et mes différentes thérapies personnelles dans des boîtes. Et quand j'ai commencé à travailler, donc il y a 12 ans maintenant, avec ce métier, tout naturellement, j'ai été chercher une boîte. C'était ici ma première boîte, très contenante d'ailleurs, le CAPOP, très rassurante pour commencer. Mais j'ai jamais vraiment questionné, en fait, cet usage exclusif du cabinet pour la psychothérapie. Je me rends compte de ça à ce moment-là. Et je me dis, c'est quoi? C'est une règle d'or? Il y a une raison précise à ça? D'où ça vient? Alors bien sûr, tout de suite, j'entends, bien sûr, la confidentialité, la protection, le cadre. Hein. Et en même temps, je commence à me demander, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres raisons un peu plus cachées qui fait que, justement, on va se cacher dans une boîte pour faire de la psychothérapie? Sur quelle vision de l'être humain ça s'appuie, en fait, cette espèce de coupure? Et puis, je me dis, dans mes rêves les plus fous, eh bien, moi, j'emmènerais mon patient, là, dans le parc. Et puis, ce serait lui qui ferait son chemin. En fait, il investirait le parc comme une sorte de grand espace où il pourrait aller vers ce qui le touche, vers ce qui lui plaît, me montrer des choses. Et ce serait donc, finalement, une sorte d'espace, un peu transitionnel entre le dedans et le dehors. Il se promènerait dehors pour me parler de ce qu'il vit au dedans. à ce moment-là, je me dis, ah oui, en fait, ce serait finalement une sorte de médiation, puisqu'il y aurait un troisième acteur qui est donc l'espace naturel, et qu'on serait dans une situation de côte à côte face à un troisième acteur. Et j'ai commencé à me dire, ah, peut-être qu'il faudrait que je regarde à nouveau ce que sont les médiations thérapeutiques. J'avais étudié ça en formation enfant-ado avec Eric Champ. Médiation, je les utilise avec les enfants, les ados, moins avec les adultes. Et donc, je me suis replongé dans cette théorie-là. Et puis, en fait, ça tombait bien parce que je suis analyste psycho-organique. Et là, je suis bien servi parce que l'APO, c'est vraiment une pratique qui circule sans arrêt entre ces différents registres de l'expérience humaine que sont les sensations, les émotions, les images, les pensées verbales. Et être analyste psycho-organique, c'est travailler dans ce lien entre ces quatre registres. Et on a beaucoup d'outils théoriques et expérientiels pour favoriser ces circulations. Et donc j'ai été puisé dans l'APO. À ce moment-là, j'étais en supervision avec Paul Boyson et puis avec Anne Michel. Donc j'étais aussi bien, soutenu hein, pour envisager de créer, d'oser créer un dispositif itinérant. Et j'ai commencé à me lancer en emmenant, après avoir élaboré un dispositif, des premiers thérapisants au parc. Et je me suis rendu compte que il se passait des choses fortes pour eux. Et j'ai commencé à noter, hein, retranscrire les séances avec l'idée d'approfondir d'abord ça pour mieux comprendre ce que je fais, et puis aussi pour partager avec d'autres ce que j'ai la joie de pouvoir faire ce soir. Donc je vais vous présenter, ça va être un survol rapide, mais disons 2 ans de recherche, et vous dire que finalement je suis arrivé à faire 3 hypothèses. Sur le dispositif concret de travail en nature que je vais vous proposer. Premièrement, la nature peut favoriser l'accès aux sensations corporelles. Deuxièmement, j'ai mon anti-sèche. Hein. Deuxièmement, la nature peut jouer le rôle d'un espace expérientiel ou projeter son monde intérieur. Et puis troisièmement, la nature peut favoriser l'accès au plaisir et au contentement. Plaisir étant plus du côté du corps et du présent, de l'émotion. Le contentement plus du côté du sentiment et de quelque chose qui va être plus durable et puis de un peu plus mentalisé déjà. Voilà. Et je vais vous proposer donc ce soir de quelques éléments théoriques. Et puis, je vais illustrer ça par un cas clinique parce que je trouve que ça donne vraiment corps à une proposition. Et on s'appuiera sur le cas clinique pour discuter ensemble de la pertinence de ce dispositif que je vais vous présenter. Et puis aussi de quand ça peut être utile, quand il vaut mieux ne pas l'utiliser. Si oui, à quel moment du processus. Voilà. Mais avant, je vais vous proposer quelque chose que j'aime bien. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est de vivre une brève expérience de visualisation. Pourquoi ? Pour que votre écoute, là, elle ne soit pas simplement sur le plan de la pensée verbale, mais que vous puissiez aussi vous relier à votre profondeur, là, maintenant. Si vous en êtes d'accord, je vous propose une brève expérience de visualisation, tout simplement pour que, si vous fermez les yeux maintenant, pendant environ 1 minute, eh bien, vous laissiez venir à vous les images sur ce thème, un lieu où vous vous sentiriez profondément bien. Un lieu avec lequel vous pourriez être en harmonie. sentez bien votre corps et vous laissez venir vos images. En gardant les yeux fermés, je vous propose d'observer si quelque chose vient. Si ça vient pas, c'est pas grave, mais si des sensations, des images, au moins une image est là, quelle part de ce lieu est fabriquée par les humains ? Quelle part de ce lieu est composée d'éléments naturels? Vous observez simplement ce qui est là et je vous propose que vous mémorisiez cela maintenant. Car nous le reprendrons tout à l'heure à la fin de la conférence. Ok, bon. Voilà, vous avez peut-être accédé davantage à votre profondeur et je vous propose maintenant de la profondeur vers un survol à pas de géant de quelques jalons d'histoire qui relient le soin et la nature. Est-ce que c'est nouveau de l'idée de soigner dans la nature ou est-ce qu'il y a une histoire à cela ? Alors, j'ai fait une très brève enquête et très brièvement, je pose quelques jalons, même si ça, vous allez voir, ça saute de loin en loin. On a en France aussi des traces de sites néolithiques dans lesquels il y a eu des rituels de fécondité. J'étais par exemple dans les Alpes pour un stage de méditation à Pâques et l'abbaye de Val-Sainte était construite sur une falaise qui portait les marques. Alors il y avait un creux comme ça et puis des parties taillées. Et les personnes qui ont restauré l'abbaye nous ont expliqué que c'était un site qui, au néolithique, attirait des rituels de fécondité avec donc des personnes, femmes probablement, mais peut-être hommes aussi, qui venaient avec une espérance qui se projetait, qui se transférait sur ce site naturel. On a dans d'autres traditions, plutôt Asie du Nord, Amérique, toutes les pratiques dites chamaniques, bien sûr, où là, la nature n'est pas considérée comme un espace projectif, où on va juste projeter ses idées. Elle est considérée, elle est vécue comme un être avec lequel il s'agit de dialoguer pour rétablir une harmonie, le chaman étant celui qui va faire le médiateur entre la demande de quelqu'un qui vient le voir et puis des puissances naturelles qui sont dotées d'esprit, avec lesquels il s'agit de dialoguer pour rétablir une circulation. Et dans ces traditions-là, la nature est supposée être habitée d'une présence. Il y a même parfois des traditions où il va y avoir l'ingestion de plantes qui sont réputées être enseignantes. Voilà, donc on est vraiment dans un autre paradigme. Plus près de nous, du côté de l'Antiquité grecque, il y a ce moment qui me fait sourire, c'est ces gens qu'on appelait les péripatéticiens. C'était en fait les disciples d'Aristote. Aristote, c'était un philosophe qui enseignait au lycée d'Athènes, notamment les relations de l'âme et du corps. Ce qui nous parle à nous en analyse psycho-organique, et pas seulement, l'âme et le corps, ça nous intéresse. Et déjà, Aristote travaillé là-dessus, et avec ses disciples, qui se sont fait appeler ensuite péripatéticiens. Péripatétokos, c'est celui qui aime se promener. Plutôt que de faire le cours dans le lycée, enfermé dans une boîte, eh bien, ils allaient marcher dans les collines autour d'Athènes. Et donc, c'est dans une déambulation en mouvement dans des sites naturels qu'ils cheminaient dans cette question des relations entre âme et corps. Et puis, encore beaucoup plus loin, on a dans notre Moyen-Âge européen, eh bien, ces femmes qu'on a appelées les sorcières, parce qu'elles étaient supposées lancer des sorts, des femmes qui avaient une certaine connaissance des plantes, et puis de rituels qui pouvaient être faits en lien avec la nature. Et là, on arrive à une époque, on pourrait dire, de grand désenchantement, puisque ces femmes, en fait, elles sont plutôt suspectes pour le pouvoir religieux. Elles sont suspectes parce que soupçonnées de transmettre, en fait, des pratiques pré-chrétiennes, polythéistes, et elles vont être souvent persécutées, voire brûlées. Et aux yeux du pouvoir religieux qui est plutôt, qui prône un dieu qui va être plutôt abstrait, alors que ces femmes sont dans le concret, un dieu qui va être plutôt unique, alors que ces femmes vont plutôt dialoguer avec une multiplicité de puissances naturelles, un dieu qui va être plutôt masculin dans ses représentations, en tout cas, alors que ces femmes sont des femmes, eh bien, il y a, comment dire, une sorte de, je dirais, désenchantement, parce que là où la nature pouvait être vécue comme un lieu enchanté de présence, eh bien, il y a une sorte de coupure qui commence à se faire. Et en fait, cette coupure, elle va, on pourrait dire, s'agrandir avec la Renaissance et puis la pensée rationnelle qui va suivre. Déjà avec la Renaissance, on a l'arrivée finalement d'une vision du monde qui n'est plus cosmocentriste, parce qu'au Moyen-Âge, c'est Dieu qui est au centre de l'attention, mais à partir de la Renaissance, c'est anthropocentriste, c'est l'homme qui est au centre de toute chose, il n'est de richesse que d'homme. Et d'ailleurs, les artistes qui, avant, officiaient plutôt dans les lieux de culte et sans signer leurs œuvres, eh bien, vont commencer à représenter surtout des figures humaines, ils vont signer leurs œuvres, et puis on va commencer à s'intéresser beaucoup aux passions, enfin aux émotions humaines, comprendre l'humain. Il va y avoir finalement un mouvement qui va aller en fait jusque finalement aux artistes romantiques qui, au tournant 18e, 19e, vont commencer à produire des romans comme les romans de Chateaubriand, René par exemple, où le personnage, le roman en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui est mélancolique, qui est dépressif, et puis on va voyager dans le roman, dans le monde intérieur de ce personnage, pour comprendre ce qu'il vit. C'est quelque chose qui ne se faisait pas au Moyen-Âge. Et on a donc comme ça un glissement où on s'éloigne de la nature. La nature, elle est d'ailleurs de plus en plus mise en équation au 18e. Elle est, comment dire, utilisée à partir de la mécanisation. Elle devient moins un lieu d'être qu'un lieu de choses, puisqu'on va l'exploiter, la mécaniser. Et on arrive, en passant par le 19e, où là, les humains commencent à explorer leur propre inconscient, avec par exemple la mode de l'occultisme, on se met autour d'une table pour entendre ce qui se passe quand on se tait et que des choses émergent comme ça. On va arriver assez logiquement à une exploration plus scientifique de l'inconscient humain, avec les travaux notamment de Charcot à la Salpêtrière sur l'hystérie, et puis de Freud, où au tournant du 20e siècle, on a ce dispositif psychanalytique qui est révolutionnaire, hein, et qui consiste finalement en une coupure radicale entre le sujet et son environnement, ce qui fait sa puissance, bien sûr, puisque au cours des derniers siècles, on a vu qu'il y a comme ça un processus d'éloignement, de déliaison entre le sujet et son environnement et le cosmos. Et le dispositif psychanalytique m'apparaît en tout cas comme une sorte de paroxysme de cette coupure. En même temps, ça a aussi une puissance fantastique, puisque ça met comme au microscope le psychisme humain. Mais en tout cas, au début du XXe siècle, on a une coupure radicale au niveau des dispositifs thérapeutiques entre le sujet et l'environnement, puisque finalement, l'humain est au centre de l'attention, c'est dans l'humain qu'il faudrait chercher la réponse à ces difficultés. Et puis ça va se réouvrir au cours du XXe siècle. Ça va se réouvrir, et là, rapidement, il y a trois fils conducteurs qui retiennent mon attention. Il y a les artistes, il y a les anthropologues, et puis il y a les psychothérapies. Les artistes, peut-être que plusieurs fois dans l'histoire, ils sont précurseurs de nouveautés qui vont émerger par la suite. Alors, en France, on a par exemple les dadaïstes qui, dès 1921, investissent un terrain vague à Paris. Voilà. Alors nous, ça nous paraît complètement banal aujourd'hui. Des artistes qui vont squatter une friche industrielle ou... Non, en 1921, les dadaïstes vont dans un terrain vague. Et pour eux, ce choix de se poser dans cet espace particulier, c'est signifiant, ça participe d'un acte créatif. Quelques années plus tard, ils vont prendre des... Non, ils prennent pas des dés, ils prennent une carte et puis, ping, ils mettent une épingle au hasard et puis ils vont là faire un voyage aléatoire. Et ils vont vivre ce voyage dans l'espace comme une expérience profonde pour eux, qui va nourrir leur vie créative et qu'ils considèrent comme signifiante. Autrement dit, c'est les débuts de quelque chose qui va être repris ensuite, de cette idée que se déplacer dans un espace, ça peut être une forme de symbolisation. Il y a des artistes qui vont reprendre ça, le situationniste français Guy Debord, dans la ville. Et puis, aux États-Unis, il y a Richard Long, qui crée dans les années 60 une marche, alors non pas dans la ville, mais une marche dans une prairie. Et puis ces allers-retours créent que l'herbe se couche sous ses pas. Et ça fait finalement une ligne, a line made by walking. C'est une œuvre fondatrice du land art, c'est-à-dire ce courant qui considère qu'on peut s'exprimer dans le lien avec la nature. Et puis après, dans les années 70 aux États-Unis, il y a Anna Alprin, qui est une grande chorégraphe, qui va aller beaucoup plus au corps à corps avec la nature. Et en France, la chorégraphe Armelle de Vigon, qui elle, va aller créer des danses où les danseurs, dont j'ai fait partie pendant une douzaine d'années, créent des danses qui sont un corps à corps avec l'arbre, avec la terre, avec l'eau. Et c'est bien sûr en m'appuyant sur cette expérience que j'ai la perception intérieure de à quel point ça peut être une ouverture vers ma profondeur, je parle pour moi là, que de rencontrer le dehors. C'est un paradoxe parce que finalement, dans cette rencontre avec le dehors, peut se vivre une rencontre profonde avec le dedans. Et puis, un deuxième fil, c'est les anthropologues. Alors, au cours du XXe siècle, il y a eu des anthropologues qui ont été visiter les pays du Sud, qui étaient des colonies souvent à cette époque-là. Et puis, il y a eu des gens qui ont commencé à découvrir que, alors qu'avant on parlait des civilisés et des sauvages, en fait, ces gens du Sud, ils ont des systèmes thérapeutiques qui sont bien là. Et Georges Devreux et Toby Nathan ont fait beaucoup pour faire connaître à nous, occidentaux, des systèmes thérapeutiques alternatifs, qui bien souvent intègrent la relation à la nature dans leur processus. Et donc, il va y avoir des anthropologues, des psychologues, des pays occidentaux qui vont aller faire des séjours dans les pays du Sud, chez des peuples dits premiers, comme on dit aujourd'hui. Et il y a par exemple la psychologue clinicienne Barbara Chasseur qui s'appuie sur sa découverte des cérémonies d'Ubanda au Brésil pour proposer, qui font appel à la transe et au lien à la nature, pour proposer dans les années 2000 en France un groupe psychothérapeutique en milieu naturel. Et il y a un troisième fil que je voudrais évoquer, c'est que la psychanalyse a évolué aussi, puisque en partant de la coupure, on peut dire, hein, du dispositif freudien de base, il y a eu l'ouverture progressive à la relation, notamment grâce à Ferenczi, dans les années 30. Et puis ensuite, dans les années 60, l'école de Palo Alto qui découvre à quel point l'environnement, en fait, est influent dans les blocages. Et c'est aidant de travailler avec l'environnement pour guérir. Et puis aussi, toutes les études sur la sociologie du travail, par exemple, à la fin du XXe siècle. Et puis, là, en parlant de ça avec Paul Boyson, je m'aperçois que dès 1981, Paul et Anne Fraisse, qui donnaient un stage à Chapeau Cornu, un château qui s'appelle Chapeau Cornu, où ils donnaient un stage, il y avait un parc autour, et là, déjà, ils ont proposé un dispositif psychothérapeutique comme milieu naturel. Alors, je vous le dis en deux mots parce que c'est quand même intéressant. Il y avait un groupe, et ils ont dit au groupe, voilà, on vous propose d'aller vous balader dans le parc, et puis là où ça vous parle, chacun de vous, vous disséminez, là où ça vous parle, quand vous trouvez un lieu qui vous touche, eh bien vous vous arrêtez là, et vous sentez ce qui se passe pour vous. Et donc ils donnent du temps aux gens pour aller explorer ce parc, chacun se pose à un endroit, et au bout d'un moment, Paul et Anne vont rejoindre celui qui est le plus proche, et lui demandent tout simplement, alors, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Qu'est-ce que ce lieu dit de toi? Ils écoutent la réponse. Quand la personne a dit, ils vont tous les trois rejoindre la personne d'à côté, qui raconte à son tour ce que ce lieu dit d'elle. Et puis l'autre, jusqu'à reconstituer tout le groupe. Donc en fait, on est là en 1981. Moi, j'étais sidéré d'apprendre ça. Je ne savais pas que ça existait. Mais déjà, l'espace était investi comme un lieu de symbolisation. Et ce n'est pas étonnant. Quand on entend le fondateur de l'APO nous dire que l'inconscient est situationnel, ça veut dire quoi? Cette phrase un peu bizarre. Ça veut dire que notre inconscient, il est activé de façon singulière par les différentes situations que nous vivons. Donc dans une immense pelouse, dans un creux ou les pieds dans l'eau, ou dans un fourré, on ne va pas se sentir pareil du tout. Ça va activer notre inconscient d'une façon spécifique. Voilà. Et puis après, il y a d'autres choses qui se passent. Dans les années 80-90, il y a un Français qui s'appelle Jean-Luc Chavanis, qui travaille dans les prisons. Il a l'idée de confier une graine aux prisonniers. Il leur dit, voilà, cette graine, si vous voulez, elle est pour vous, et vous avez, si vous voulez, la possibilité d'en prendre soin. Avec un pot, de la terre, vous la plantez, et puis vous pouvez imaginer qu'elle pourrait symboliser ce que vous voulez qu'il devienne. Et là, les prisonniers commencent à imaginer que, ah oui, cette graine, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Peut-être ma sortie de prison, peut-être quelque chose, un projet, un futur. Et ils travaillent à accompagner la croissance de cette graine. Voilà. Et ça a donné naissance à tout un processus thérapeutique de, non pas de thérapie, mais de coaching, que Jean-Luc Chavanis a développé. Il a appelé ça méta-nature. Et si je vous en parle, c'est parce que ce processus, il est déjà rentré à la fac. Avec le soutien du professeur de CHU de Lyon, Alain Calender, et du psychiatre François Balta, cette approche-là, méta-nature, elle est enseignée à la fac de Cergy-Pontoise. Donc, la nature comme médiation thérapeutique, en fait, est déjà enseignée à la fac. Voilà. J'y croyais pas, mais c'est comme ça. Et puis aussi, j'ai découvert que il y a des gestalt thérapeutes, comme par exemple Jean-Pierre Ledanf, qui, depuis longtemps, propose en Bretagne des séances itinérantes. Et puis, il y a aussi toute la relation à l'animal. Là, ça a commencé en Norvège, en 1955. Et puis, c'est devenu en France une véritable thérapie psychocorporelle. La Fédération française du soin par le cheval dit en 86 que c'est une thérapie psychocorporelle dont le but est de réaménager les fonctions psychiques et physiologiques. Voilà. Et puis en Angleterre, il y a quelques personnes qui ont développé une approche plus radicale encore. Il y a une psychothérapeute anglaise qui s'appelle Beth Collier, et qui au début recevait en cabinet, et après avoir reçu un adolescent qui voulait aller au parc, elle a vécu une sorte de révélation, et maintenant elle ne reçoit plus que dans les parcs londoniens. Alors ils ont des grands parcs là-bas. Hein. Donc, elle est radicale quand même, hein, parce que là-bas, il pleut souvent. Moi, je ne suis pas aussi radical qu'elle. Mais elle a quand même, Bette Collier, créé un programme de reconnexion à la nature, Wild in the City, et puis même une Nature Therapy School, où elle forme des thérapeutes qui ont déjà une formation initiale à une spécialisation de travail avec la nature. Et je voudrais citer une phrase de Marc Toquet, là, qui a publié un excellent livre qui présente l'APO au grand public, « Je suis un corps qui pense ». Il nous dit, Marc, qu'en Occident, le pouvoir de la pensée et le primat de l'image demeurent prédominants. Mais quelque chose est en train de se fissurer, porté par l'écologie notamment. C'est par les catastrophes environnementales que se démontrent le mieux actuellement les dégâts d'une pensée hégémonique, coupée d'une relation sensible à l'autre et au monde. Voilà, je crois que moi, ce que j'entends en tout cas dans sa phrase, là, c'est vraiment le thème de la dissociation. Quand la connexion organique est perdue et qu'il y a une hégémonie du mental sur l'action humaine, eh bien, ça crée des dégâts. Et donc, cette question de la dissociation, peut-être qu'on peut l'entendre à l'intérieur d'un être humain. Hein, on peut être dissocié, et peut sentir son corps et ses émotions. Peut-être aussi qu'elle existe à une échelle plus large entre nous les humains et puis l'écosystème dans lequel on vit. Alors, bon, je me dis, très bien, ça, c'est chouette de faire de la thérapie en nature, mais sur quelle base clinique s'appuyer ? Il ne suffit pas d'aller marcher en forêt pour faire une séance de thérapie, me semble-t-il. J'ai vraiment eu envie de trouver des bases théoriques solides pour savoir ce que je faisais et pourquoi je le faisais et en quoi ce serait thérapeutique. Voilà. Donc j'ai commencé par aller voir du côté des médiations thérapeutiques en reprenant des travaux de la psychanalyse contemporaine, René Roussillon, il y en a qui connaissent, qui est un psychanalyste de Lyon 2, qui a travaillé beaucoup sur notamment les médiations thérapeutiques et dans un ouvrage collectif que j'ai trouvé. Il reprend à la base, en fait, et je vous lis quelques phrases pour être plus proche de sa pensée. Donc, proposition pour une théorie des dispositifs thérapeutiques à médiation. J'en profite pour dire que à peu près tout ce que je dis là, ça va être publié dans un article sur le site Sophrapsy demain. Hein, donc, pas besoin de tout noter. Si vous voulez l'article, vous pourrez me laisser votre mail aussi à la fin. Hein, je vous le dis pour que vous ne soyez pas trop crispés sur le stylo. Alors, René Roussillon, il dit « On souffre du non-approprié de l'histoire, du non-approprié de l'histoire et de l'expérience subjective. Le non-approprié de soi, c'est ce qui n'a pas ou mal été symbolisé et ne peut pas être intégré et approprié par suite dans la vie psychique. S'en dérive une première conception du travail du soin psychique. On guérit en rejouant symboliquement et en s'appropriant ainsi l'expérience subjective qui était en souffrance dans la psyché, dans la psyché. » Donc voilà, une théorie comme ça, ça postule qu'il y a des traces qui sont restées à l'intérieur, finalement, d'expériences qui ont été vécues mais pas vraiment senties, ou senties mais pas vraiment parlées. Hein, le cycle, finalement, n'a pas été complet et il y a des résidus qui restent. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de médiation ? On pourrait très bien dire à son psy, voilà, j'ai vécu ça, j'ai besoin d'en parler. Alors oui, en général, c'est ce qui se passe. C'est par la parole qu'on peut symboliser, exprimer ces choses qui sont restées à l'intérieur, ces expériences qui sont restées en souffrance dans la psyché. Mais parfois, on est porteur de traces qui sont si inconscientes, si honteuse, si innommable, que on n'ose pas l'exprimer par la pensée verbale au thérapeute. Parfois, on peut avoir peur d'ailleurs de choquer le thérapeute ou de le détruire, ou bien on peut sentir que le thérapeute, il a peut-être peur d'accueillir ça. Et donc, dans ce cas-là, Roussillon nous dit une manière de tourner la double difficulté que le thérapeutisant peut avoir peur, ne peut pas exprimer ou que le thérapeute, il a peut-être du mal à entendre. Eh bien, c'est de détourner le processus évacuateur en direction d'un objet médiateur, représentant du soignant, mais différent et détaché de celui-ci. Cela suppose un objet médiateur capable d'accueillir et de mettre en forme la matière première psychique qui s'y transfère. Voilà. Et le travail psychique de subjectivation consiste alors à trouver, créer des représentations qui, en présence du soignant, ouvre la possibilité d'une métabolisation thérapeutique. Bon, très bien, mais concrètement, comment ça marche? Alors, René Roussillon, il propose trois fonctions que je trouve très claires. Hein. Phorique, sémaphorique, métaphorique, hein, tu connais. Voilà. Alors, voilà, la fonction, donc pour lui, selon Roussillon, la médiation agit avec trois fonctions. Fonction phorique, foraine, c'est porter. Donc le rôle, c'est d'attirer, recueillir, contenir. La médiation, elle doit d'abord contenir, attirer, porter ce qui est transféré. Et puis, il y a aussi la fonction sémaphorique. Sémaphorine, c'est-à-dire que le porte-signe. Et là, il s'agit, l'enjeu, c'est de mettre en forme signifiante, en signe, la matière psychique accueillie. Et puis, troisième fonction de la médiation, eh bien, c'est la fonction métaphorique. C'est-à-dire que là, la médiation vise à rendre symbolisable et intégrable, à mettre en sens ce qui va émerger, depuis l'agir jusqu'au sens. Alors concrètement, les médiations, on les trouve aujourd'hui dans les instituts psychiatriques, souvent avec des personnes psychotiques pour lesquelles la parole n'est pas suffisante pour le processus thérapeutique. On les trouve aussi en cabinet libéral, notamment dans le travail avec les enfants, parce que chez les enfants, la fonction verbante n'est pas complètement développée. Quand on demande à un petit de 5 ans, bah alors, c'est quoi qui te fait souffrir, toi? Ben, en général, il ne sait pas dire, hein. Il n'a pas les mots pour ça. Et la médiation va donc être le réceptacle, et on va le choisir bien adapté à la personne, hein, qui va permettre d'inscrire ce qui n'avait pas été digéré. Et dans ce cadre-là, les thérapeutes, ils importent en général des choses qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des images du monde avec un photolangage. Ils importent de la terre avec de l'argile. Ils importent, par exemple, de la couleur avec la peinture. Donc, ils font venir le dehors dedans. Travailler avec la nature comme médiation thérapeutique, ce serait en fait le mouvement inverse, c'est-à-dire aller dehors pour trouver un espace de symbolisation. Dans un espace spécifique dit naturel. Et là, on parle donc de lien à l'environnement. Et il y a cette phrase de Winnicott que vous connaissez peut-être, hein, un nourrisson seul, ça n'existe pas. Ben oui, puisque Winnicott, il a été vraiment un des premiers à montrer comment l'environnement est déterminant pour l'organisation psychique du tout petit. Ben, de la même façon, je trouve qu'on pourrait dire un patient seul, ça n'existe pas. Patient seul. Même, imaginons qu'il vive tout seul, ce patient. Bah, il est quand même nourri par un écosystème qui assume ses fonctions physiologiques vitales. Un écosystème avec lequel il est plus ou moins relié, plus ou moins dissocié. Et donc, voilà, c'est la question donc, de ce lien avec l'environnement. Je pourrais poser la question comme ça. Comment accompagner, soutenir la possibilité du thérapeutisant de vivre du plaisir dans son environnement? Et là, l'APO m'a aidé, parce qu'en fait, l'APO, c'est une thérapie du lien corps-esprit qui place dans son cœur le rétablissement de l'impulse primaire, c'est-à-dire ce mouvement à l'intérieur de nous qui veut ce qui est bon, qui veut obtenir le besoin. Et j'en viens à vous dire quelques mots de ce que j'ai pu piocher dans l'APO. Bah, l'inconscient est situationnel. Hein. Une fois, j'emmène un thérapeutisant dans une des séances itinérantes au parc. Et mon dispositif commence comme ça. Je dis, voilà, c'est moi qui vous suis. Vous allez là où vous le sentez. Vous vous laissez attirer par les lieux qui vous touchent. Et si vous vous arrêtez quelque part, je vous accompagnerai par des questions pour que vous sentiez mieux ce que ce lieu dit de vous. Et ce monsieur chemine longtemps. Il s'arrête au milieu d'une immense pelouse. Au parc de Noisiel, il y a en bas une pelouse, elle fait la taille de 3 terrains de foot. Elle s'arrête en plein milieu. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous voyez là? Et il me dit, ici, c'est comme ça que je me sens. Je suis là où il n'y a pas de chemin, pas de croisement. J'évite de choisir. Et là, il s'approprie sa problématique. En fait, ce monsieur, il n'arrivait pas à choisir un lieu de vie pour sa famille. Il avait une problématique de choix. Il était coincé là. Et c'était une souffrance parce qu'il y avait des échéances, des enjeux, etc. Et en venant se placer au milieu de cette pelouse, alors on peut dire qu'il a peut-être pensé que la pelouse pourrait symboliser cela, ou peut-être que traverser cette pelouse a créé une situation qui a activé son inconscient là, et qu'il a pu me dire ça à ce moment-là. En tout cas, c'est la première fois qu'il a pu le poser comme ça. Et puis, bon, c'est bien beau de symboliser des situations, de dire, voilà, moi je vis ça, je suis comme ça. Et bon, le but de la thérapie, c'est quand même de accompagner la transformation des affects. Et donc, comment on fait pour accompagner la transformation des affects? Chaque méthode a ses outils. Nous, en APO, on a, en EMDR, on a ce fameux mouvement des yeux. En APO, on a un moteur très puissant et très simple, qui est le PIT, qui, en fait, stimule d'abord s'approprier la charge émotionnelle. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là dans cette situation? La situation, dans cette situation, qu'est-ce que vous sentez là, dans votre corps, dans votre cœur? S'approprier la charge, contacter la charge, et puis ensuite, bah, mobiliser cette charge dans le sens d'une transformation. Dans cette situation, quand vous sentez cela, ça vous donne envie de dire ou de faire quoi? Et ces trois questions-là, elles ont l'air toutes bêtes, toutes simples, mais en fait, c'est comme un moteur, quoi. C'est comme une manivelle. On aide la personne à faire circuler, en fait, ce qui était resté coincé à l'intérieur. Et dans la nature, je travaille avec le PIT quand une personne s'est arrêtée à un endroit, quand elle me décrit ce qu'elle vit là, je me sers de ces trois questions du PIT. Mais c'est pas comme dans le cabinet. Parce que c'est quoi la différence de faire un PIT dans le cabinet et dans la nature? Dans le cabinet, en général, la personne nous parle d'une situation qui se passe ailleurs, souvent dans un autre temps. Alors que dans la nature, la personne, elle nous parle d'une situation qui est là. Le monsieur, il est sur la grande pelouse, là. C'est maintenant quelle est la situation. Et c'est maintenant que son corps reçoit le soleil, le vent, la sensation de la terre sous ses pieds. Et donc, il parle d'une situation qui est présente à partir d'une sensation qui est là, ici et maintenant. Et donc, c'est un travail du PIT dans l'ici et maintenant qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui fait une différence, notamment chez les personnes qui ont du mal à sentir leur corps, par exemple. Parce que quand une personne a du mal à sentir son corps, quand elle est au contact de la nature, elle est stimulée corporellement. Et là, la sensation, qu'est-ce que vous sentez là dans cette situation? Ben, elle le sent vraiment. C'est beaucoup plus accessible, c'est plus concret, c'est plus réel. Elle n'a pas besoin de penser à quelque chose que imaginairement elle pourrait sentir. Ça fait une différence, j'ai pu l'observer, pour des gens qui sentent peu leur corps. Et puis, troisième apport de l'APO, sur lequel je me suis appuyé notamment, ben, c'est les contrats. Les contrats, ce sont voilà, des façons de voir le monde, un peu comme des... une paire de lunettes hein, qu'on a intériorisées, on voit le monde comme ça. Hein, bon, on ne va pas donner d'exemple de contrat, vous connaissez. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lunettes, on ne les voit plus. En fait, on les a sur le nez, on a oublié qu'on avait ces lunettes. On a oublié qu'on voit le monde de façon déformée par nos contrats, par nos croyances sur l'humain, sur la vie, etc. Et dans le parc, quand la personne se promène, on est avec elle face à une situation réelle. Prenons l'exemple de la pluie, il pleut, hop, il y a de la pluie qui arrive pendant la séance. Ben, la personne, elle peut dire, oh putain, j'ai pas de chance, hein. c'est toujours pareil, hein. À chaque fois je peux me faire plaisir, ça me retombe dessus, je peux jamais être heureux moi. Elle peut retomber là-dessus, mais elle peut aussi, par exemple, faire un choix d'expérience autre, comme, ah bah tiens, là maintenant que la terre est mouillée, je sens des odeurs de la terre qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ah ouais, là j'ai la possibilité d'avoir un paysage olfactif qui est carrément agrandi. Et donc, cette expérience in situ, elle va rendre plus visible, en fait, ces paires de lunettes avec la personne que la personne a pour voir la réalité. Voilà, quelques mots pour vous décrire concrètement ce dispositif que je vais vous présenter ce soir et que j'ai utilisé là depuis 2 ans, qu'on pourrait appeler l'exploration d'un espace naturel. Donc concrètement, je peux proposer à certains thérapeutes, dans certains moments du dispositif, de leur processus, le dispositif de l'exploration de l'espace naturel. Et je l'explique aux thérapeutes. On verra tout à l'heure sur la question du cadre comment c'est expliqué. Et puis, voilà, je lui dis la prochaine fois. C'est pas dit tout de suite, hein, la prochaine fois. C'est pas fait tout de suite, c'est préparé à l'avance. Je vérifie que la personne est ouverte à ça. Si je vous propose que la prochaine fois, vous puissiez vivre l'expérience d'une séance itinérante en espace naturel, ça pourrait être pour vous l'occasion, une façon d'approfondir votre processus thérapeutique, mieux sentir votre corps, une autre façon de vous découvrir et de rencontrer votre dynamique vitale. Si vous en êtes d'accord, après un début au cabinet, nous irons au parc qui est tout proche. Quand nous franchirons la grille du parc, ce sera vous qui nous guiderez, moi je vous suivrai. Et vous ferez confiance à ce que vous sentirez. Vous vous laisserez attirer par les lieux qui vous touchent. Si vous vous arrêtez quelque part, je vous accompagnerai en question pour que vous découvriez mieux ce que ce lieu dit de vous. Et puis, à la fin de la séance, nous rentrerons vers le cabinet où nous conclurons la séance. Voilà. Alors, là arrive la question du cadre. Et quand j'ai commencé à parler à certains de mes collègues, dont certains sont présents, hein, de ces séances en espace naturel, j'avais l'impression d'entendre un mélange d'envie. « Ah, oh, dis-donc, t'as de la chance, c'est chouette, ça doit être bien d'aller dehors. » Et puis, d'inquiétude aussi. « Mais alors, mais le cadre ? Mais que devient le cadre ? Et la contenance du dispositif ? » Et question très pertinente, hein, nécessaire. Alors, j'ai creusé, hein, le cadre. Et j'ai juste envie de vous rappeler que un cadre, c'est métaphoriquement, hein, d'abord un objet comme ça, qui est composé de 4 baguettes de bois, qui contient non pas une chose, mais l'image d'une chose. Et donc, c'est paradoxal de parler de cadre pour aller dehors, dans la nature, dans le monde, parce que dans le monde, on n'a pas l'image de la chose, on a la chose. Et pourtant, un cadre dans la psychothérapie, c'est pas 4 baguettes de bois. Un cadre, en fait, c'est un ensemble de règles qui sont choisies par le thérapeute en accord avec la déontologie de sa profession et qui sont transmises au thérapeutisant qui va progressivement, au fil des séances, intérioriser ces règles. Ce cadre, en fait, à quoi sert-il ? Bien sûr, à contenir le processus, à protéger aussi ces 2 acteurs de la relation thérapeutique, mais il sert aussi à rendre visible les manifestations transférentielles que le thérapeutisant il n'arrive pas, dont il n'est pas conscient, quoi. C'est parce que il y a des petits débordements du cadre qu'il est possible d'aider le thérapeutisant à voir ce qu'il est en train de jouer. S'il n'y avait pas de cadre, eh bien, s'il n'y avait pas de limite, s'il n'y avait pas de règles, le thérapeutisant ne pourrait pas s'apercevoir de ce qu'il est en train de déborder dans la relation thérapeutique. Donc il a cette fonction protectrice, un ensemble de règles, et cette fonction de rendre visibles les enjeux transférentiels. Et là, qu'est-ce qui change quand on va au parc, au niveau du cadre ? Eh bien, là où, dehors, l'agir du corps a vraiment toute sa place, le cadre, ça va être vraiment le garant de l'usage thérapeutique du dispositif. Dans le cabinet, le thérapeute, il est sur son terrain, c'est à lui, ou bien comme au CAPOP, il a loué la salle, mais c'est symboliquement comme à lui, quoi. Au parc, le thérapeute, il n'est pas chez lui, ça ne lui appartient plus, cet espace, et ça, c'est quand même pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a comme un basculement de position, Là où, avant, il y avait ce face-à-face sur le terrain du thérapeute, il y a un côte-à-côte sur un terrain qui n'appartient à personne. En reprenant les travaux de Roussillon, je suis retombé sur cette phrase qui résonne avec ça, puisque Roussillon dit « Le médium, c'est-à-dire la chose qui va faire médiation, l'objet qui va faire médiation, il appartient en fait à tout le monde. Il n'appartient à personne. Il est utilisable pour la symbolisation. Le présentateur, le thérapeute, se doit de garantir cette fonction. Il est le garant de ce cadre. » Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est-à-dire que pour que, mettons, le bloc d'argile soit vraiment investi, en fait, par le thérapisant, il ne faut pas qu'il soit vécu comme la propriété du thérapeute. Il faut que cet objet qui fait médiation puisse être cogné, puisse être vraiment pouvoir déverser tout ce qu'on n'osait pas déverser sur le thérapeute. Et donc, il faut que finalement cet objet tiers soit quelque chose d'utilisable qui appartient à tout le monde et qui n'appartient à personne. Roussillon nous dit aussi, l'animateur, ça veut dire le thérapeute, là pour lui, est ainsi situé du même côté que l'utilisateur par rapport au médium. C'est une pratique du côte à côte, dans laquelle la différence des positions entre patient et clinicien tient dans la fonction du garant de l'utilisation symbolique du médium qui spécifie le clinicien. Conclusion, le thérapeute en fait devient un contenant mobile. Concrètement, le cadre pratique dans mon dispositif est le même, hein, même tarif, même durée, même règle en cas de séance manquée. Le cadre déontologique, bah, pareil, hein, le non-jugement, la distance professionnelle, le non-passage à l'acte, ni violent, ni sexuel. Et puis la confidentialité, et là la règle bien sûr de ce que vous me dites, je ne le répète pas au dehors, est conservée. Mais sur la question de la confidentialité, il y a quelque chose qui change quand même. Et oui, c'est que dans le parc, il peut y avoir potentiellement, même si en 2 ans ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver que quelqu'un soit là et puis voit, hein, le thérapisant, eh bien, marcher dans le parc à côté du thérapeute ou voir le thérapisant allongé sur une pelouse. Alors là, c'est important d'étudier les différents cas de figure. C'est sensible là. Quels sont les risques? Je vois 4 aspects. Le risque de divulgation de la parole, c'est-à-dire quelqu'un entend ce que dit le thérapisant. Très faible, parce qu'un parc, c'est quand même grand. En semaine, il n'y a pas grand monde. Le thérapisant, il ne va pas se coller aux autres. En général, il va plutôt aller là où il y a de l'espace. Bon, ça arrive rarement. Risque de divulgation des gestes du thérapisant. Bah oui, ça peut arriver, effectivement, si s'adosse à un arbre ou si s'allonge sur une pelouse, que quelqu'un le voit faire ça. Risque de socialisation. Que quelqu'un, imaginons, hein, le thérapisant, il est dans le parc, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le connaît, qui vient le voir. Ah, salut, comment tu vas? Socialisation. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais c'est quelque chose qui doit être pensé. Et puis, risque de divulgation, finalement, que la relation thérapeutique existe. C'est-à-dire, au fond, tu étais avec quelqu'un, là ouais. Voilà. Et là, c'est une question sensible, parce que pour avoir travaillé 10 ans ici, au CAPOP, j'ai été témoin du fait qu'une fois, un de mes thérapisants qui était dans la salle d'attente, eh bien, a rencontré de manière fortuite quelqu'un d'autre qu'il n'était pas supposé rencontrer là, et voilà. Et après, il est rentré dans la salle, et puis il m'a dit que, bah oui, ça lui avait fait quelque chose quand même. C'était fortuit, c'était pas attendu. Hein. Et donc, nous, en fait, on voudrait que nos cabinets, ce soient des boîtes étanches. Hein. On voudrait que ce soit complètement, idéalement fermé, clos, etc. Bon, en réalité, c'est un idéal, ça. En fait, il y a des zones de porosité. Il y a la salle d'attente. Il y a le couloir qui mène à l'entrée de l'immeuble. Il y a l'entrée de l'immeuble. Il y a, même quand on va chez son thérapeute de ville, on prend l'ascenseur, on croise le patient précédent, souvent à la même heure, dans le couloir. En fait, il y en a des croisements. Hein. Mais ils sont particulièrement visibles dans situation de... Oulala, il y a quoi, c'est pas là ? Dans la situation de la séance itinérante. Et donc là, eh bien, c'est vraiment important d'expliquer Ce que je fais, c'est que j'explique aux thérapisants, d'abord, que dans la séance itinérante, le cadre classique s'applique, je redis ce cadre, et puis j'explique qu'il y a l'éventualité qu'il soit vu par quelqu'un, et je vois avec lui, hein, je vérifie avec lui si c'est bien acceptable pour lui. Si ça ne l'est pas, bien évidemment, je renonce à cette médiation. Voilà. Alors, Marc Tokev remarquait que c'est encore mieux, en fait, de demander, de poser cette question au tout début de la thérapie, quand le transfert n'est pas encore engagé. Pourquoi ? Parce que quand le transfert est engagé, un patient ferait beaucoup de choses pour plaire à son thérapeute, éventuellement. Hein, et il dirait oui à plein de choses. Donc l'éthique nous recommande de poser la question en première ou deuxième séance, ce que je fais maintenant, voilà, pour minimiser les effets de transfert dans la réponse à cette question-là. Très brièvement, la question du plaisir du thérapeute. J'ai attendu 10 ans avant de aller en nature, peut-être parce que je voulais bien maîtriser la psychothérapie ou avoir l'impression de la maîtriser suffisamment. Peut-être aussi que finalement j'avais peur de transgresser quelque chose en allant dehors. Peut-être aussi que je me disais, en fait, moi j'aime être dans la nature, j'aime ça. Finalement, si je vais dehors, alors c'est pour mon plaisir. Est-ce que j'utilise le patient pour mon plaisir ? Alors, l'éthique de la psychothérapie, hein, c'est délicat le plaisir du thérapeute dans la thérapie, puisque c'est le besoin du thérapeutisant qui est au centre. L'éthique de la relation thérapeutique nous dit que il est interdit d'utiliser le thérapeutisant pour la jouissance du thérapeute. Et là, il y a quand même une place. J'ai cheminé en me disant, mais il y a quand même une place pour le plaisir dans la thérapie. Quand le plaisir du thérapeute fait que le lien est vivant. Ben oui. Winnicott nous dit, la psychothérapie s'effectue là où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute. Si le thérapeute ne peut pas jouer, cela signifie qu'il n'est pas fait pour ce travail. Toc, ça c'est Winnicott. Donc changez de métier si vous ne pouvez pas jouer, si vous êtes thérapeute. Et si on ne prend pas de plaisir au jeu, voilà. Qu'est-ce que peut sentir le thérapeutisant s'il n'y a pas de plaisir chez le thérapeute ? Donc, voilà, il y a ce chemin que j'ai fait sur l'idée que, oui, je peux prendre du plaisir en travaillant, et je peux même demander de l'argent, quand même si j'ai pris du plaisir. Hein, parce que je pense qu'il y avait l'équation névrotique. Travail égale souffrance, plaisir égale loisir, donc plaisir dans le travail, impossible. Hein. j'ai mis 10 ans à dépasser ça. Ok. On arrive à la présentation d'un cas clinique. Inès, c'est une...
Pour des raisons de confidentialité, le cas clinique d'Inès n'est pas diffusé sur cet enregistrement. Les analystes psycho-organiques pourront le retrouver en intégralité sur l'article « La nature comme médiation thérapeutique » disponible dans la partie « Membres » du site Sophrapsy.
Elle nomme ses plaisirs, création, amitié, rencontre. « Je sais me remplir sans mon ex », dit-elle. Il n'y a pas eu de retour au parc après. Hein. Mais il y a eu des séances où elle puisse finalement s'approprier cette sensation qui a été comme un tournant dans le processus thérapeutique. « Si je me suis laissé autant envahir, c'est parce que j'ai tout accepté pourvu qu'on m'aime. » Elle ajoute enfin « Au parc, j'ai pu sentir que je suis bien ancré dans le sol allongé. J'ai senti physiquement comme des trucs qui sortaient de la terre et qui me tenaient. » Et puis elle dessine à nouveau ces trucs-là. Voilà. Alors, je vais conclure en 2 minutes, parce qu'on va garder du temps. Juste nommer que la fonction, pour reprendre les 3 fonctions de Roussillon, la fonction phorique, c'est-à-dire contenir le processus, elle est assurée, puisque le cadre était suffisamment solide, intériorisé, il y a eu suffisamment de confiance et de respect du cadre pour qu'elle s'engage dans ce processus. La fonction sémaphorique, porte-signe, a été assurée puisqu'elle a pu symboliser ses affects avec la coupe, avec le tronc, avec l'herbe, avec l'air. Elle a pu, au dehors, retrouver son monde du dedans. Et puis la fonction métaphorique a été assurée, la mise en sens, puisqu'elle a pu, à partir de cela, nommer le sens de son expérience et puis le réinvestir d'une séance sur l'autre et l'approfondir après et le dessiner. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc qui est arrivé comme ça. C'est finalement quelque chose qui s'est approfondi d'une séance sur l'autre. Les trois hypothèses. Le contact avec la nature peut favoriser l'accès aux sensations corporelles. On voit que ça a été un tournant et puis que c'est resté après. La nature peut jouer le rôle d'un espace expérientiel ou découvrir son monde intrapsychique. On l'a vu avec les trois fonctions phorique, sémaphorique, métaphorique. Peut soutenir l'accès au plaisir et au contentement. Il y a les deux dimensions dans le processus d'Inès. Il y a le plaisir de la bonne sensation, mais il y a ce contentement qu'elle trouve finalement quand elle sort de la dépendance affective et que, bah oui, elle peut vivre seule, créer, avoir des amis. En fait, se sentir heureuse dans la durée sans avoir besoin d'un autre. Voilà. Quand utiliser cette médiation? Alors, moi, je l'utilise quand l'alliance thérapeutique est assez construite, la confiance dans le lien établi, quand je vois que la personne peut respecter le cadre, il est suffisamment intériorisé, et surtout, quand le discours ne porte plus sur le passé ou l'ailleurs, mais quand la personne s'est approprié sa problématique pour, je dirais, parce qu'elle en est au point où elle veut évoluer ici et maintenant sur son lien au monde. Tant que Inès parlait de Francis, ça ne servait à rien d'aller dans le parc pour parler de Francis dans le parc. Il valait mieux attendre qu'elle dise « Ah oui, je veux pouvoir trouver du bon en moi ». Et là, oui, ça a été possible. En conclusion, je dirais que, comment dire, je vais citer une séance avec un autre thérapeutisant. Il est adossé à un arbre qu'il a choisi parce que là, il trouve de l'enracinement, de la solidité. Je lui dis « Qu'est-ce que vous voyez ?»« Un autre arbre, c'est mon père. Un autre arbre, c'est mon frère. » Et alors, comment ils sont ces arbres? Cet arbre-là, mon frère, il est mort. Son frère allait très mal. C'était l'hiver, effectivement, l'arbre n'avait plus de feuilles. Moi, je savais, j'avais vu cet arbre, qu'il y avait des bourgeons au bout, en fait, qui étaient là. Et à ce moment-là, je me demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse, ce thérapeutisant, projeter son monde intérieur sur l'arbre? Ou est-ce que je lui propose d'aller voir cet arbre, d'aller rencontrer ce qu'est cet arbre, l'altérité de cet arbre? Et peut-être de découvrir qu'il y a des bourgeons qui sont prêts à éclore. Et j'ai fait ce deuxième choix parce que son frère, en fait, était vivant. Et donc, il se lève, il va voir l'arbre, et il découvre qu'il y a des bourgeons, et il me dit « Ah oui, en fait, quand on croit que c'est mort, des fois, il y a de la vie. » Et là, on arrive à la frontière du dispositif, parce qu'on arrive à un point où la nature est peut-être pas seulement un espace projectif où on peut voir notre monde intérieur, mais peut-être que dans l'écosystème vivant qui nous entoure, on peut rencontrer aussi des enseignements, des sources de sagesse, de connaissances. Et là, on rentre dans vraiment un autre paradigme qui est que finalement, cette nature qui nous entoure, on pourrait dire que c'est la couche la plus externe de nous-mêmes. Hein. Il y a moi, ma peau, Il y a mes vêtements, tous les objets humains, la société des humains, et puis tout autour, il y a l'écosystème. Et en fait, la psychothérapie, au cours du XXe siècle, on a vu qu'elle elle s'est ouverte à l'environnement, elle a intériorisé les différentes couches. Mais il me semble qu'elle est seulement en train de commencer à s'ouvrir à cette couche la plus périphérique, qui est l'écosystème. Or, nous, on vit dans un monde aujourd'hui où, c'est devenu banal de le dire, l'environnement est attaqué par les humains, et il y a cette dissociation qui existe non seulement à l'intérieur des humains, parce qu'on nous dit de faire plus vite, avec moins de moyens, être plus compétitif, de consommer plus pour se sentir mieux, etc. Et cette dissociation, elle existe aussi entre les humains et l'écosystème. Et pour moi, et c'est ça qui me touche le plus, et c'est pour ça en fait que j'ai envie de partager avec vous ce soir cette pratique, c'est que faire une place à la relation à la nature dans la psychothérapie, je pense que c'est une façon d'ouvrir la psychothérapie tout en restant centré sur la clinique du sujet, d'ouvrir la psychothérapie à un soin plus large qui prend en charge finalement, la dissociation structurelle de notre humanité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous allez peut-être pouvoir dire, dans le temps d'échange qu'on a là, qu'est-ce que vous avez vu dans la visualisation tout à l'heure? Est-ce que vous avez vu des lieux plutôt construits par les humains, des lieux de nature? Qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce que on peut, je dirais, être complet, nous, tant qu'on n'a pas, je dirais, intériorisé hein, ces différentes couches, ces différentes enveloppes et qui vont jusqu'à l'écosystème. Question.
Merci.
Merci.
Réagir, partager, poser des questions. C'est à vous.
On a mis combien de temps? Une heure et demie.
Ouais. Déjà, moi, je te remercie à la fois sur le fond et la forme. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Et je trouve que c'est une façon d'expliquer très, très clair à la fois avec de la théorie et de la pratique. C'était une vraie merveille. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Donc j'étais déjà convaincue de l'intérêt de la nature. Moi, je fais beaucoup de méditation dans la nature. Mmh. Je fais une semaine par an où je reste 5 heures dans la nature à observer. Et j'ai fait beaucoup de ponts avec ce que tu as dit.
Oui.
J'aurais du mal à me symboliser. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé par rapport à cette expérience où j'ai pu vraiment sentir la force de la nature et ce lien entre nous, les humains et l'environnement.
Oui, oui.
Je suis convaincue que c'est fondamental.
Oui.
J'avais une autre question qui m'est venue quand tu as parlé de l'EMDR.
Oui.
Parce que je me disais.
Salut Pascal.
As-tu déjà pensé aussi à coupler la force de la nature comme médiation au fait de marcher et d'utiliser la marche dans la nature?
Ouais.
C'est ce que je me disais en t'écoutant. Mmh. Je ne connais pas énormément le MDR, mais d'abord ce que j'ai compris, c'est vraiment de favoriser la circulation grâce à l'alternance.
Tout à fait.
Et donc la marche, ça agit là-dessus.
Ben oui. Ouais.
Et voilà. Et en t'écoutant, je t'imaginais rajouter l'aspect marche.
Oui.
Voilà, donc par rapport à ça, est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que tu as déjà essayé?
Mais oui, c'est excellent parce que j'y ai pensé, mais je n'ai pas osé le faire encore. Voilà, parce qu'effectivement, en EMDR, il y a la stimulation bilatérale alternée, que ce soit par le mouvement des yeux ou par le tapping, qui est une sorte de catalyseur de la remise en mouvement de la mémoire émotionnelle. Finalement, marcher, comme les péripatéticiens, bah, c'est une stimulation bilatérale alternée super puissante, hein, puisque ça draine beaucoup de sang. Et donc, j'ai pensé à un protocole, en fait, où on ferait le protocole EMDR dans la marche, où ce serait immobile, et puis au lieu de faire ça, bah, on ferait faire 25 pas, quoi. Avec cette réserve que l'EMDR, c'est une technique, enfin, c'est une thérapie que je trouve vraiment intéressante surtout pour le traitement des mémoires post-traumatiques. Et quand une personne va me parler, je dirais, de l'agression qu'elle a subie, de l'intrusion qu'elle a subie, être dans un milieu ouvert, c'est délicat quand même. Et c'est pour ça que je différencie, je prends soin de proposer la séance itinérante, non pas dans les moments du processus thérapeutique où la personne est avec ses traumas et le plus douloureux, mais plutôt dans les moments où elle est prête à réinvestir l'ici et maintenant de son corps et de la présence au monde. Et souvent, c'est dans une deuxième partie du processus thérapeutique, comme on l'a vu avec l'exemple d'Inès d'ailleurs.
Alors, en fait, moi, ce que je me disais, c'est que c'est pas forcément pour traiter les traumas. En fait, j'ai eu aussi une expérience, je t'en ai déjà parlé une fois, en entreprise, on faisait faire à des managers tester la capacité d'écoute en marchant dans la nature.
Ah oui,
faire marcher
je me souviens.
Les managers dans le parc. Alors, donc, en fait, c'était deux par deux, et c'était pour explorer si la personne était plus au contact d'elle-même et plus en capacité d'écouter en marchant dans la nature que assis dans.
C'est ça, oui.
Et en fait, moi du coup, j'émets l'hypothèse que si le thérapeute marche avec le patient dans la nature pour échanger, qu'à la fois le patient est plus au contact de ce qu'il ressent, mais aussi le thérapeute.
Oui.
Et que ça peut amplifier la capacité d'écoute et de.
Oui.
Voilà, c'était ça.
Oui. Oui, j'entends, mais j'ai vécu aussi des expériences avec ce dispositif de la séance itinérante dont je vous ai parlé, avec des personnes qui, en fait, m'ont parlé de carrément autre chose, mon travail, mon chef, ma femme, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'arrivais pas vraiment à l'écouter, quoi, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient très fortes. Il y avait la lumière, les oiseaux, l'arbre, le vent, tout ça. Et lui, il me parle de son boulot. Et autant, au cabinet, je pense que j'aurais pu peut-être mieux l'écouter, me parler de son boulot. Mais là, au parc, ça interférait pour moi. Et en fait, il n'arrivait pas à être dans l'ici et maintenant. Et du coup, c'était plutôt contre-productif. Du coup, j'ai pas essayé en fait d'emmener les gens systématiquement. « Ouais, venez au parc, c'est super, vous allez voir. » J'ai pas travaillé comme ça. Je prends bien soin, en fait, d'attendre que la personne soit du côté de l'ici et maintenant. Cependant, je suis d'accord avec toi, le MDR, c'est pas seulement le trauma, il y a aussi plein d'autres aspects. Et puis, on pourrait travailler sur l'écoute, la ressource, etc. Et puis, cette stimulation bilatérale alternée qu'est la marche, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. Donc ça, c'est ouvert, quoi.
J'ai juste une question par rapport à cette réponse que tu m'as donnée, par rapport aux fonctions que tu as énoncées. C'était déjà quelque chose que j'avais ressenti quand tu parlais. Mmh. J'ai quand même l'impression que la force de cette... Je ne vais pas arriver à dire mot. Je vais dire balade, parce que le mot est compliqué.
Si tu veux.
Y
arriver. Allez, balade.
J'ai l'impression que c'est plutôt dans la phase métaphorique qu'elle prend toute sa puissance. Non
ouais.
Que pour les autres... que c'est là qu'il y a le... Quand il y a la nécessité de l'activation positive, j'ai envie de dire, qu'on s'approprie le vrai désir de transformation.
Oui.
C'est là surtout que ça fleurit. Ou pas.
Oui, c'est vrai que dans les différentes situations, il y a eu effectivement... appropriation du désir de transformation, par exemple par les racines qu'elle a envie d'avoir sous les pieds, puis elle les retrouve. Là, on est vraiment dans la racine comme une métaphore de ce qu'elle veut pour elle-même et qu'elle va trouver. Mais des fois, il me semble aussi que il y a eu déjà la fonction sémaphorique, dans le sens où, en fait, au contact de la nature, la personne découvre quelque chose, en fait. Au contact de l'espace naturel, elle découvre quelque chose qui est pour l'instant un début de quelque chose et qui n'était pas forcément là dans son discours auparavant.
Qui n'est pas possible, enfin en tout cas qui était plus compliqué.
Ouais.
Pour cette personne-là.
Oui.
Dans un autre processus.
Oui, je pense par exemple à une personne que j'ai accompagnée pendant longtemps et qui un jour veut faire une séance. C'est elle était à fond. Elle dit je veux faire une séance au parc et je veux que ce soit une séance double. Je réfléchis, on en parle et j'accepte, donc deux heures. Et c'était à la tombée de la nuit. Et la moitié de la séance s'est déroulée dans le parc de Noisiel qui est toujours ouvert de jour. Et en fait, à la moitié de la séance, elle m'a emmené au bord d'un étang dont l'eau est noire. Et là, la nuit commençait à tomber. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, alors que je la voyais depuis plusieurs années en processus, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me parler des pensées mortifères qu'elle avait parfois. Et c'était jamais arrivé avant dans la thérapie. Et là, je crois que c'est vraiment... Il y a l'émergence de quelque chose. Il y a eu la possibilité pour elle de parler de mort. Elle n'avait jamais parlé de ça avant. Ce thème de la mort, ce signe, hein, le mot mort comme... Enfin, ce thème-là a émergé, là, et on est rentré ensuite dans le noir. Elle n'a pas voulu passer par la grande pelouse, elle a voulu passer par un chemin dans le sous-bois où on ne voyait rien. Et là, elle m'a parlé des pensées mortifères qu'elle avait, des pensées suicidaires même, qu'elle a traversées à certains moments de sa vie. Et si c'était là, c'était encore présent. Hein. Et voilà un exemple d'un moment dans lequel la rencontre d'un espace au dehors a fait, me semble-t-il, résonance avec le dedans.
J'ai comme l'impression que ces séances, le silence est plus présent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas de ce que tu partages, j'allais dire même plus permis, qu'il y a une écoute double, enfin décuplée en fait, par le fait que la personne va marcher et choisir son endroit et que tu l'accompagnes. Et que par ce, en tout cas moi, en tant que thérapeutisante, quand je m'allonge dans la pièce et je sais que je vais devoir parler, j'avoue que parfois j'ai pas très envie. Hein. Et parfois j'aimerais bien, voilà, en effet, pouvoir juste rester en silence, mais il y a un truc qui dit, ça se fait pas, il faut que je cherche quand même ce qui se passe. Ou au bout d'un moment, il faudrait qu'on me pose la question, de quoi vous êtes, en fait, etc. Et que là, il y a quand même la possibilité aussi d'être dans le silence et d'écouter en fait ce qui se passe vraiment en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et comme ça, ça émerge différemment.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose comme ça?
Oui, et en effet, effectivement, c'est tout à fait possible là de cheminer longuement en silence et l'agir du corps a vraiment toute sa place. C'est-à-dire que c'est possible finalement de cheminer à partir du mouvement de son corps dans l'espace, de ses sensations, sans trop pouvoir dire qu'est-ce qui est en train de se passer, mais bien sûr, le passage par la parole est quand même bienvenu à un moment de la séance, mais peut-être, ça peut être, quelques moments dans la deuxième partie. C'est aussi globalement le cas des médiations en général. Hein, quand on travaille le bloc d'argile, on est invité à penser avec son corps. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir une phrase qui puisse être posée à la fin. Mais c'est vrai, c'est quelque chose donc aussi qui nous invite à laisser venir des vécus préverbaux.
Si vous le lien, quand tu as posé la question, est-ce que dans vos paysages il y a plus d'éléments de nature
ou
d'éléments industrialisés?
Oui.
En tout cas, dans mon expérience de méditation, et c'est pour ça que j'ai fait cette hypothèse, quand on médite dans un milieu naturel, c'est beaucoup plus facile d'observer, on est beaucoup moins parasité par les pensées que quand on médite, par exemple, où il y a des objets industrialisés, parce que tout de suite, quand on voit un objet industrialisé, ça ramène au concept et on repart dans les pensées, et donc on peut beaucoup moins observer ce qu'on ressent, et donc on est moins en contact avec soi-même.
Oui, oui.
Donc, il semble qu'en ce sens, la médiation thérapeutique favorise l'observation.
L'observation.
Autre chose que les pensées.
Oui.
Moi, en t'écoutant, Yann, j'étais en train de me dire, mais j'étais en train de chercher où il y avait un parc près du Cap.
Ah oui. Oui, oui, bien sûr.
J'ai pas trouvé. Mais enfin, et je pensais à autre chose. Alors, pour tout te dire, je suis venu à cette conférence un peu par curiosité et un petit peu dans l'état d'esprit de ce que tu décrivais de tes collègues, ce que tu leur parlais de cette expérience-là, de cette façon de mener la thérapie à l'extérieur, et leurs doutes.
Bien sûr.
Un petit peu là-dedans.
Ben oui.
Et, en t'écoutant, il m'est revenu que cette semaine, j'ai reçu un patient, alors lui, typique dans la pensée, énarque, haut fonctionnaire au ministère des Finances, et qui me dit, en gros, je suis proche du burn-out, je travaille tout le temps, la nuit, pareil, je pense à mon travail, etc. Et il rajoute, il n'y a que quand je viens ici, dans la séance, que je me repose, que je trouve du répit. Et il ajoute, ça commence lorsque je traverse le jardin, ici, en venant au Cap-Bop.
Oui. Intéressant. Et donc, ça répond à ta première question.
Il est
petit. Ah, ouais. Mais il est quand même agissant, ce tout petit jardin de la cour. Ouais. Ouais, oui.
Donc, ça pose quand même la question, quand on a un cabinet oui. en milieu urbain, on n'a pas forcément un parc oui. À côté.
Bien sûr. Alors, ça, c'est une question qui est évidemment très importante et je me doutais qu'on l'aborderait, puisque tout le monde n'a pas un parc juste à côté de son cabinet. Il y a l'exemple de la thérapeute anglaise Beth Collier qui reçoit dans les parcs à Londres. Il y a aussi cette possibilité, une fois que l'alliance thérapeutique est solide, que la personne, merci, bonsoir, respecte bien le cadre, que c'est le bon moment dans la thérapie, eh bien, de proposer un rendez-vous au thérapisant, eh bien, à la grille de l'entrée d'un parc, alors plutôt un grand parc, hein. Voilà. Et moi j'envisage d'ailleurs de consacrer une demi-journée par semaine à ne recevoir qu'au parc, en plus hein, de mes trois jours où c'est cabinet-parc, de bloquer une journée où ce serait qu'au parc, et où je donnerais rendez-vous aux gens à la grille d'entrée du parc, et où finalement je ne passerai plus par mon cabinet, où je reçois les gens à la grille, il y a la séance, et puis je les raccompagne. Et je me garderai, je pense, un quart d'heure de battement pour respirer, pour qu'ils ne se croisent pas, les deux thérapeutes. Mais le parc serait mon cabinet une demi-journée par semaine. Je l'ai fait avec un patient qui est venu de Paris plusieurs fois pour venir à sa séance au parc de Noisiel. Et ça s'est très bien passé, en fait. Donc, techniquement, c'est possible, me semble-t-il.
Et vous voyez, j'ai une question.
Pardon.
Oui. J'ai une question. Ça s'adresse essentiellement à des thérapeutes qui sont en processus de transformation. Ou pas forcément.
Alors,
parce que là, mon interrogation, elle est finalement l'espace ouvert, vert, est quand même limitant pour le thérapeutant. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne peut pas explorer toutes les sensations dans son corps. Parce qu'il est à la vue des autres.
Bien sûr.
Donc il ne peut pas hurler s'il a envie d'hurler, taper dans un coussin. Jeter des cailloux, enfin, ce serait possible, mais pleurer, s'effondrer, comment ça se passe quand le thérapeutant, par exemple, a une sensation qui n'est pas forcément que la sensation de plénitude, où effectivement c'est hyper apaisant, mais où il se passe d'autres choses qui, pour le coup, viennent interférer sur l'espace social et celui du thérapeute, et ce que ça peut produire comme agression aussi pour les autres, mais aussi pour le thérapeute qui peut se manifester et pour le thérapeutant.
Bien sûr.
C'est là mon interrogation.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je crois que la séance en nature n'est pas le bon endroit pour les grandes abréactions émotionnelles. Parce que...
Mais comment le savoir?
Alors, comment le savoir? Eh bien, en début de thérapie, la personne nous parle finalement, d'abord au début de cette difficulté au présent, on appelle ça l'horizontale en APO, et puis, bien souvent, il y a un point de bascule où elle nous dit une phrase comme « Oui, mais de toute façon, pour moi, ça a toujours été comme ça. » Et clac, elle passe dans le vertical. Et là, « Ah bon? Comment c'était pour vous, comme ça, toujours ?» Et là, elle commence à raconter son histoire, et elle travaille sur ces relations premières qui ont inscrit des charges résiduelles, et on accompagne ce processus dans le cabinet. Et arrive un moment, bien souvent dans le processus thérapeutique, où la personne s'approprie une envie d'évoluer en elle-même, pour elle-même, être davantage capable d'une certaine présence au monde, peut-être d'une certaine détente, de sentir son corps, de s'ouvrir à l'environnement, de pouvoir goûter, de pouvoir être d'une certaine façon avec le monde. Et là, à ce moment-là, elle n'est plus dans la grande décharge émotionnelle. Et c'est là que, si on l'accompagne dans la nature, la nature va être comme une espèce de grand stimulation et laboratoire pour être au monde autrement. Et en 2 ans de travail comme ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une grande décharge émotionnelle. Ça aurait pu, pourquoi pas, je pense que ça aurait pas été
problématique. Non, parce que, comme tu dis, les gens qui ne sentent pas leur corps,
Oui.
Du coup, si là, dans un jardin, à un moment donné, dans la séance, oh, je sens mon corps et la réaction, elle est là, ah, il oui. y a quand même quelque chose qui se passe. Après, ça dépend du process de chaque thérapeutisant.
Oui.
Donc, c'est là où moi, oui. je mets un peu une,
oui.
une zone d'inconfort et je me oui. dis comment moi, je, en tant que praticienne, je me positionnerais, comment ça se passerait avec le regard
oui.
de la société
oui.
Et le patient, comment lui se...
Oui, bien sûr.
C'est ça, en fait.
Hein, bien sûr, en tant que praticienne, là, il me semble que tu aurais à discerner à quel moment... Il est préférable que le cabinet joue sa fonction protectrice, puisque cette boîte, elle sert pas à rien, elle est très utile, cette boîte, dans plein de moments du processus, en fait. Et puis, à quel moment est-ce que ça peut être à la fois sécure et utile que la personne bénéficie de cette stimulation de la nature pour grandir dans une certaine part de son être au monde? Oui, et là, il y a le discernement du thérapeute.
Oui. Est-ce que moi je trouve que ça me rassure que tu dises que c'est envisageable qu'on puisse donner rendez-vous au parc,
ouais.
parce que je trouve que c'est, enfin, je sais pas comment tu te débrouilles pour pas justement que le passage du cabinet au parc, ce soit pas, ça devienne pas une conversation, un moment avant on se balade. Bon. Donc, ouais. Tu vois, tu es dans un lieu intermédiaire où justement
oui.
la médiation n'est pas encore là.
Oui.
Et donc,
oui.
voilà, j'aimerais savoir comment tu te débrouilles pour
ouais.
Avoir un cadre suffisamment intériorisé oui. pour rester thérapeute, quel que soit l'endroit où tu es.
Oui.
Et puis, voilà, je pense que ça demande une certaine maturité. C'est ça que
oui.
en fait, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, enfin,
ouais.
de mes associations.
Ouais.
Et une autre question, c'est si tu as exploré avec des enfants. Des adolescents, la médiation par la nature.
Ok. Alors, ouais, c'est une bonne question, ça. Hein. Ces zones de transition, elles sont délicates. Hein. La salle d'attente, le couloir. Et là, effectivement, donc, la séance itinérante, la personne, elle arrive à mon cabinet, elle salle d'attente, elle rentre dans la salle de travail, elle sait qu'aujourd'hui, on va faire une séance itinérante. Je vérifie que c'est toujours bien pour elle. Si c'est oui... Eh bien, nous allons vers le parc qui se trouve être tout près pour moi. Mais on descend l'escalier, l'entrée, la rue, on marche 150 mètres de rue. Et au début, je me disais, oh là là, je suis qui là? Je suis où? Quelle casquette est-ce que j'ai sur la tête? On est côte à côte sur le trottoir, la personne me parle, qu'est-ce que je fais? C'est une conversation de copains? Non, on n'est pas des copains. Qu'est-ce qui... Voilà. Et en fait, c'est là que j'ai pu sentir à quel point en fait, le cadre, c'est quelque chose qui est intériorisé par le thérapeute. Et donc, en fait, on marche sur le trottoir pendant quelques minutes et la personne eh bien, me raconte voilà, ce qu'elle a vécu. Elle me dit quelques mots de ce qu'elle a vécu dans la semaine. Et puis, moi, je fais « ah oui, ok, voilà ». Et quand on arrive à la grille, je dis « à partir de maintenant, c'est moi, c'est vous qui nous guidez, je lui déroule le mode d'emploi, et hop, c'est parti. Et donc, c'est vrai que c'est délicat. Alors, j'ai envie de nommer, je pense que Paul ne m'en voudra pas, mais moi, j'ai attendu beaucoup d'avoir assez de maturité pour pouvoir sentir assez solidement ce cadre. J'ai attendu 10 ans. Et je parlais de ça avec Paul, et il m'explique un jour que lui, il s'est retrouvé, il n'avait pas accès à son cabinet, donc il a fait la séance au café avec le thérapeutisant. Alors là, je suis tombé des nues, je me suis dit, mais comment c'est possible de faire une séance au café? Et là, je me suis dit, ah ouais, il a vraiment intériorisé le cadre. Hein. Et donc, je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est pas si extrême que ça. Voilà. Et par rapport au travail avec les enfants, et tu en parlais aussi, Olga, eh bien, j'ai pas encore exploré ça. Hein. Et je pense que ça mérite réflexion, un dispositif spécifique qui associe le parent. Hein. Et je te remercie parce que c'est un truc qui est là, mais que je n'ai pas creusé encore. Hein. Et je sens que, par exemple, oui, même que ce soit pour l'enfant ou pour la relation parent-enfant, qui bien souvent se trouve en fait au centre de la thérapie, hein, avec les familles, c'est souvent très partagé, les difficultés, eh bien, l'espace naturel pourrait favoriser peut-être quelque chose autour du jeu, peut-être, et de la création, Hein, créer, jouer, ce sont des choses qui viennent assez spontanément pour l'enfant dans la nature. Et que bien souvent, on voit des parents qui n'arrivent plus à jouer avec leur enfant. Hein, peut-être que là, il y a quelque chose qui pourrait être riche, hein, effectivement. En réfléchissant à quelque chose qui serait vraiment adéquat pour protéger, articuler les espaces. Oui. Toi, tu pensais à quelque chose, peut-être ? Tu avais des idées là-dessus ?
Non, mais ça, j'avais l'idée, enfin, l'image qui me venait, c'est que l'enfant risquait de s'échapper, quoi.
Ah, oui ! On joue à chat ! Oh ! Il a gagné ! Catastrophe ! Ah oui, bien sûr, oui.
Il y a aussi la médiation par le jeu.
Oui.
Non, j'avais pas vu qu'il existait la crainte de devoir
oui.
courir
derrière. Oui, oui,
oui. Oui. Aussi il court plus vite que toi.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Avoir les talons aiguilles, ce
moi, ce qui me venait bien en écoutant tout ce que tu nous as partagé, comme tu évoquais les images de l'enfance,
ouais.
de l'histoire de la nature, et comment on avait coupé notre écologie avec la nature,
ouais.
C'est ce dispositif analytique dans le cabinet avec le divan, etc.
Ouais.
Et je le remettais avec le dispositif de l'école, comme tu disais. Les enfants dans les jardins,
ouais.
où on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'école avec un pupitre ? Qu'est-ce que c'est qu'un divan, un fauteuil, etc.
Oui.
Pourquoi ces lieux, leur histoire ?
Ouais.
Et que dans ce qui... Donc, il y a eu l'expérience pédagogique
ouais.
de l'école dehors,
oui.
où on sait que c'est hyper bénéfique pour les enfants,
ouais.
mais que nous ne le faisons pas parce que ça coûte cher et c'est complexe. Et... cette liberté, alors choisie avec certains moments, certains patients, certains processus, en fait, moi, ça me ramène à la liberté naturelle de l'humain que nous avons perdue,
oui.
puisque marcher, c'est notre être premier. Nous sommes des êtres marchands normalement,
oui.
des nomades qui traversons le monde.
Oui.
Et comme nous avons créé l'agriculture et l'industrialisation pour notre confort,
oui.
pour notre sécurité, notre survie, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça se retourne contre nous.
Mmh.
Et quand tu proposes de marcher, même si c'est pas un grand parc, tant mieux si c'est un grand parc, mais je pensais même à un petit quelque chose,
ouais.
c'est mettre du mouvement, c'est commencer à redonner une impulsion de quelque chose qui est notre origine.
Ouais.
Et ensuite, sur le cadre, je me disais, oui, ça peut paraître grand, perdant, on peut s'échapper, etc. Mais en même temps, c'est notre cadre naturel, c'est pas la pièce, mais c'est le cadre naturel, mmh. c'est le monde.
Mmh.
Et là, c'est un jardin organisé, en plus, quand même,
oui.
un peu sécurisé,
bien sûr.
Parce que ça peut être autre chose de se dire, on se retrouve et on le fait avec des groupes. Mais là, il y a la sécurité du groupe. Enfin, on se retrouve à la campagne, on se retrouve au bord de la mer pour faire un travail de quelques jours thérapeutique. Mais je ne sais pas ce qu'ont vu les personnes comme image. Moi, dans ta visualisation que tu nous as proposée, j'ai vu des images plutôt naturelles, sans intervention de l'homme, ou peu,
okay.
des paysages naturels. Et je crois que cette force de vie, elle est thérapeutique, mmh. et si on le fait en accompagnement avec un thérapeute, c'est génial.
Mmh.
Parce que ça fait un double mouvement de la rencontre d'un thérapeute, d'un soutien,
oui.
mais soutenu par quelque oui. chose que nous avons perdu et qui est
oui.
vivifiant,
oui.
qui est la nature.
Oui.
Bon, combien de fois je me suis dit, j'aurais pas besoin d'aller autant en thérapie, j'aurais pas eu besoin de l'époque. Si je pouvais aller tous les jours une heure dehors, dans la montagne, dans la mer, au bord de la mer, c'est très thérapeutique. Thérapeutique
oui.
pour moi.
Oui.
Donc là, de le faire accompagner et avec un dialogue, là c'est un dispositif comme tu proposes, on pourrait peut-être imaginer un autre sort, genre de dialogue, mais je trouve que c'est un tiers contenant qui est plus qu'un tiers, c'est notre cadre, notre monde.
Oui.
Donc voilà, ça me fait penser à tout ça pour amener l'imaginaire et la sécurité, et le fait que c'est un super dispositif.
Merci. Oui, un tiers
contenant
hein, ce qui est paradoxal, parce qu'en général, le tiers, c'est pas vraiment le contenant, c'est le troisième,
c'est
mais là... Non, c'est très bien exprimé, parce que justement, il est à la fois tiers et l'enveloppe qui nous contient tous. Il est notre cadre à tous, finalement.
Et du